coq chanter le jour paraît, tous est debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons visiter le site de méthanisation d'Agri-Flandre Énergie à Runescu dans le département du Nord, où les déchets agricoles sont valorisés en électricité et en chaleur pour une entreprise locale.
Alors, votre nom, c'est comment ?
Sayouba Traoré.
Runescu est une commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France. Il faut quitter la cité de l'agriculture à Saint-Laurent-Blangy, dans la proche banlieue de la ville d'Arras, et parcourir environ 80 km en voiture pour gagner la commune de Runescu. Et c'est Benoît Dudan, responsable bâtiment, équipement, énergie et machinisme, à la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais, qui nous sert de guide. Un parcours qui nous laisse le temps pour situer les enjeux de cette affaire de méthanisation à la ferme.
Pas faire le trou trop gros et trop petit parce qu'il faut une certaine quantité d'oxygène pour arriver à allumer la flamme. Mmh. Et après,
une exploitation agricole a besoin de sources d'énergie pour fonctionner, ce qui lui coûte de l'argent. Et d'un autre côté, l'exploitation produit des déchets dont il faut se débarrasser, opération qui coûte également de l'argent. La solution à tous ces problèmes, c'est de recycler les déchets produits par la ferme, de sorte à produire soi-même une source d'énergie, d'où la méthanisation.
On est arrivé, après.
La méthanisation est un processus naturel qui permettrait d'assurer l'autonomie énergétique de la ferme et de gagner un complément de revenus issus de la production d'énergie renouvelable. Les explications de Benoît Dudan. Rappelons qu'il est responsable du service bâtiment, équipement, énergie et machinisme à la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais.
Alors le principe, il est très très simple, hein, parce que l'homme n'a rien inventé, donc on copie la nature, et qui plus est, on copie ce qui se passe dans une panse de vache. Donc le fonctionnement est le même. Dans une panse de vache, on met de la matière organique. Ça peut être de l'herbe, ça peut être du maïs, ça peut être des feuilles de légumes, voilà, tout ce qui est produit par la nature est de la matière organique, à partir du moment où elle n'est pas transformée. Donc cette matière organique, comme dans la panse de vache, vous la mettez à l'abri de l'air, donc on utilise souvent l'expression anaérobique. Comme dans la panse de vache, vous brassez cette matière organique régulièrement. Et comme dans la panse de vache, vous chauffez cette matière organique pratiquement à la température de notre corps, donc 37, 38, 39 degrés. Et ce qui va se passer naturellement, c'est qu'on a une catégorie de bactéries qu'on appelle les bactéries méthanogènes qui vont se développer et qui vont dégrader cette matière organique et produire du méthane.
Et qui est un gaz utile.
Donc le méthane, dans ce cas présent, est un gaz utile, puisque c'est le méthane, il va permettre, puisqu'il est récupéré, de produire de l'énergie. Et ce qui se passe concrètement sur les sites de méthanisation, c'est qu'on brûle ce méthane dans ce qu'on appelle un cogénérateur, et ce cogénérateur va produire de l'électricité. Cette même électricité, elle est revendue donc à EDF, et c'est l'électricité que peuvent retrouver les citoyens dans l'électricité qu'ils consomment au quotidien.
Ça veut dire que par exemple, si j'ai un méthaniseur dans ma ferme, il y a deux avantages dans cette affaire. Je produis ce méthane qui est une source d'énergie. Le digesta, c'est-à-dire le reste, vous m'avez dit que ça peut servir de fertilisant.
Absolument. Et digesta est très très intéressant pour le monde agricole puisqu'on va y retrouver tous les éléments minéraux nécessaires au développement des plantes.
Donc ça, on fait de l'épandage sur les champs.
Donc ça, on va faire un épandage sur les champs de ce produit au moment opportun, par exemple au moment où les plantes en ont le plus besoin. Donc par exemple sur ce site, on a même des épandages qui se font directement sur les cultures implantées. Comme ça, on est sûr d'optimiser la valorisation du produit. Mais on peut faire aussi des épandages en période automnale et venir implanter ce qu'on appelle un cipan qui va capter l'azote.
C'est quoi un cipan ?
Le cipan, ce sont des cultures intermédiaires que l'on met entre deux cultures principales pour protéger le sol.
Ici, nous sommes où ?
Ici, nous sommes dans le nord, à Renescure, donc près de la ville d'Hazebrouck.
Et vous nous avez amené sur un site de méthanisation.
Vous êtes sur un site de méthanisation qui a été porté par deux exploitations agricoles qui aujourd'hui sont spécialisées en grande culture et en production du lait et qui voulaient au départ valoriser l'ensemble de leurs effluents d'élevage, fumier et lisier, produits par les troupeaux.
Voilà, on a deux gros cubes là, plus sept tentes là. Le méthaniseur, c'est lesquels là ?
En fait, on peut voir qu'il y a quatre cuves différentes. Il y en a deux, les deux premières, qui servent à la digestion, dans lesquelles on va retrouver les conditions que j'ai citées, hein, donc anaérobique, mélange constant, à l'abri de l'oxygène. Et vous avez deux autres cuves qui, eux, servent au stockage du digestat.
Ah, les ronds, là ?
Oui, servent au stockage du digestat, mais elles sont quand même parfaitement étanches parce qu'on veut récupérer tous les gaz résiduels. Et donc, il faut savoir que la méthanisation, c'est un processus continu et en quelque sorte, il n'est jamais complètement fini. Et donc, dans la conception de cette installation, on récupère même les dernières molécules de méthane qui sont produites au-dessus des stockages, qui sont également valorisées.
Ah, même pendant le stockage, ça continue ?
Alors, on considère que 95% de la production du méthane se fait dans les digesteurs, puisqu'on a les conditions optimum. Mais lorsqu'on transfère chaque jour une petite partie du digesteur vers le stockage, on a encore des bactéries qui sont vivantes et qui vont venir produire les derniers mètres cubes de biogaz.
Les spécialistes estiment qu'en 2030, près de 50 000 agriculteurs français pourraient porter des projets de méthanisation. Toutefois, il y a de nombreuses contraintes. D'abord, il faut un investissement conséquent. Ensuite, il faut vaincre les réticences du voisinage. Et il faut un encadrement parce que c'est une affaire qui nécessite du temps de préparation. Le témoignage de Julien Vicker, le fils de Jacques Vicker, l'un des deux exploitants agricoles qui ont conçu et installé la société Agri-Flandre Énergie.
Alors, en Nord-Pas-de-Calais, on a été la troisième à mettre en route. Il y en avait d'abord une dans le Valenciennois et une dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, on doit être en Nord-Pas-de-Calais, peut-être pas, mais j'aurais dit une vingtaine. On est une vingtaine à peu près. Aujourd'hui, bon, on voit, enfin, il faudrait peut-être plus demander à la Chambre d'agriculture, mais des projets, on en entend, il y en a de plus en plus. Alors bon, c'est important que ce soit des projets quand même qui soient bien réfléchis à la base, qu'en fait, on ne fasse pas de la méthanisation parce que le voisin fait de la méthanisation. C'est important de bien réfléchir et de pouvoir créer une filière vertueuse, quoi.
Et qu'est-ce que vous avez fait ici pour que ce soit vertueux ?
Alors, ici, la production principale, c'est l'électricité. Le sous-produit de l'électricité, c'est la chaleur. C'était important pour nous de valoriser l'intégralité de la chaleur. Alors, en fait, elle est valorisée dans une entreprise juste à côté. C'est une entreprise...
C'est celle-là, là ?
Oui, voilà. C'est une entreprise agricole qui produit des germes d'haricots mango. Donc, en fait, c'est des germes de soja, hein, pour comprendre un peu plus la chose, qui est cultivée dans des salles chauffées à 30 degrés à longueur d'année.
C'est-à-dire que la chaleur que vous produisez ici, en produisant l'électricité, c'est conduit là ?
Oui, en fait, il y a des tuyaux en fait sous vos pieds qui s'en vont en fait jusque là-bas. Il y a 350 mètres de tuyaux. Et nous, on envoie une chaleur grosso modo aller à 80 degrés. Et lui, il nous renvoie une eau refroidie à 60 degrés. Et quelque part, nous, on lui chauffe son process. Et lui, il nous refroidit l'eau pour refroidir nos moteurs.
Une telle installation, excusez-moi de parler d'argent, mais c'est un gros investissement.
Oui, c'est un gros investissement. On a investi 3 millions d'euros pour produire 500 kWh d'électricité.
Et qui vous a aidé ?
Alors, financièrement, on a été aidé par l'ADEME, qui nous a apporté un soutien financier. Et d'un point de vue administratif et technique, on a été aidé par la Chambre d'agriculture, qui nous a apporté quand même un accompagnement au quotidien dans l'élaboration de ce projet.
Et c'est quoi cet accompagnement ? Ça consistait en quoi ?
Ben, c'est l'aide aux démarches administratives, hein. Donc c'est rédaction de tous les dossiers afin de pouvoir prétendre à l'autorisation d'exploiter. C'est l'aide d'un point de vue technique, c'est-à-dire c'est nous aider au calcul du dimensionnement du projet. C'est l'accompagnement, c'est une vision externe qui nous permet de prendre du recul et qui nous permet surtout d'éviter de faire des erreurs.
Quand vous avez décidé de faire ça, vos voisins n'ont pas râlé ?
Non. En fait, on a été leur expliquer le projet et on a voulu faire une unité propre, virtuose, on l'a dit tout à l'heure, et propre. On s'est engagé à une multitude de choses que l'on a respectées et aujourd'hui, ça se passe très bien avec les voisins.
Pour réduire les freins au développement de la méthanisation agricole, il faut un accompagnement pour les agriculteurs porteurs de projets. Et dans cette affaire, l'action des chambres d'agriculture est souvent déterminante. Hélène Béraud-Gabouri est chef de projet méthanisation à la Chambre d'agriculture de la Vienne.
Effectivement, la méthanisation, on s'accorde tous à dire que c'est une filière qui est vertueuse sur plein d'aspects. Les freins au développement de cette filière, il y en a plusieurs. Il y a les temps conséquents de démarches administratives, l'appropriation locale où il y a besoin globalement dans la filière d'expliquer plus largement ce que c'est que la filière méthanisation auprès du grand public pour que les gens comprennent ce que c'est que la méthanisation et puis aussi du coup accueillent favorablement les projets sur leur territoire. Et ensuite un troisième frein, c'est le financement des projets et les démarches de formation que nous proposons auprès des agriculteurs. Nous, Chambre d'agriculture, sont favorables et contribuent à ce que l'agriculteur soit porteur de projet responsable et impliqué et aboutisse au financement de son projet.
On va aller sur le premier problème. Il y a beaucoup de démarches administratives.
Oui, il y a beaucoup de démarches administratives qui peuvent parfois décourager les porteurs de projet. Cette étape-là dure de un an à plusieurs années.
À plusieurs années ?
Oui.
Donc, si je suis un porteur de projet et que j'ai l'appui de la Chambre d'agriculture, ça facilite quand même les choses.
Ben, on est là pour ça, oui. On est là pour ça, les chambres d'agriculture, pour accompagner l'agriculteur dans l'avancée de son projet de méthanisation sur toutes les étapes du projet.
Alors, deuxième problème, l'appréhension des populations locales.
Ça peut être légitime, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Il y a peu d'unités de méthanisation en France à ce jour. Et du coup, les gens qui n'ont pas d'unité de méthanisation dans leur canton se posent la question de ce nouveau site qui va arriver dans leur environnement. Donc la première des étapes, c'est de leur expliquer ce que c'est que la méthanisation et de leur proposer, pourquoi pas, des visites d'unités de méthanisation pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de l'intérêt d'avoir un tel projet qui arrive sur leur territoire.
Madame, vous avez cité un troisième volet des difficultés qui, là, n'est pas négligeable, les questions d'argent.
Effectivement, une unité de méthanisation, c'est un gros investissement, qui est un investissement qui est bien plus conséquent que les investissements habituels dans les exploitations agricoles, de tracteurs ou de bâtiments d'élevage. Et du coup, ça nécessite, pour le porteur de projet qui investit, de bien prendre la mesure de la réalité de ce nouveau métier, de l'investissement pour que son projet soit une réussite et rassure notamment son banquier qui va être le prêteur de fonds.
Alors moi, je suis porteur de ce genre de projet. Je viens vous voir, vous, Chambre d'agriculture. Mmh. Qu'est-ce que vous faites pour moi ?
Les niveaux d'accompagnement des chambres d'agriculture est variable selon les départements en accompagnement technico-économique. Il y a des chambres qui proposent une étude technico-économique qui permet d'évaluer la rentabilité du projet.
Et
il y
a c'est-à-dire que vous venez me voir pour voir combien ça va me coûter comme investissement, si ça va être rentable ?
Oui, les chambres d'agriculture, elles accompagnent. Quand le porteur de projet est bien mûr et quand l'agriculteur a bien réfléchi aux enjeux du projet, les chambres d'agriculture produisent des études technico-économiques ou directement ou indirectement.
Donc vous avez des conseillers que la Chambre d'agriculture a formés et qui vont voir les agriculteurs chez eux et pour les aider à lever tous ces obstacles-là.
Aujourd'hui, nous sommes réunis en séminaire. Nous sommes 45 conseillers méthanisation des chambres d'agriculture de toute la France à nous former ensemble pour avoir un accompagnement demain encore meilleur qu'aujourd'hui auprès des agriculteurs porteurs de projets pour la création de valeur ajoutée pour les exploitations.
Je vais essayer de comprendre. C'est-à-dire que vous faites ce travail-là, mais ce séminaire de deux jours, c'est vous-même, vous faites un bilan pour voir qu'est-ce qui marche dans votre travail, qu'est-ce qui peut être amélioré. En fait, un échange entre vous, quoi.
Alors, plus qu'un bilan, c'est vraiment un partage de compétences. On prend le meilleur de chacun, on invite le meilleur de chacun à témoigner à l'occasion de ces deux jours pour former les collègues qui sont demandeurs d'informations pour améliorer leurs conseils demain.
Ah, ça veut dire que vous-même, vous avez besoin de remise à niveau de formation.
Et évidemment, on est tous dans une démarche d'amélioration continue dans nos métiers. On a tous de nouvelles choses à apprendre des autres et en groupe, on est plus fort que tout seul.
Je vous remercie.
Merci à vous également.
À présent, une visite des installations. Et c'est sur les pas de Benoît Dudin que nous partons pour cette découverte des lieux.
Ici, vous êtes dans le ce qu'on appelle le ring. C'est l'endroit où toute la matière organique va être dirigée dans les différents digesteurs. Et la matière, elle est envoyée par des tuyaux, ici, dans deux digesteurs.
Ah oui, ça, c'est le mur du digesteur, là, que
ouais,
je vois.
Ça, c'est les murs des digesteurs, ronds. Donc, il y en a un ici, un deuxième là. Ça, c'est un stockage et on a un autre stockage derrière. D'accord ? La matière, elle est incorporée. Ici, ça doit être une trentaine de tonnes chaque jour qui est injecté une vingtaine de fois, donc par exemple une tonne et demie à la fois toutes les heures, qui arrive dans le digesteur. C'est brassé, mélangé. Par ces tuyaux-là. Donc c'est brassé, mélangé, comme ça les bactéries peuvent travailler en bonne condition. Et de la même façon, par exemple, toutes les deux heures, il y a une tonne et demie du digesteur qui est repompée et renvoyée dans le stockage.
Pour que ça soit en continu. Quoi.
Pour que c'est un système qui est parfaitement continu. Mmh. Effectivement, on apporte toujours à manger aux bactéries et on enlève toujours un petit peu de matière pour qu'on ait un niveau constant dans les digesteurs.
D'accord. Et le méthane, il sort par où ?
Donc, le méthane, il est produit au-dessus des poches.
Oui.
D'accord. On a tout un système qui est enterré, qu'on ne voit pas, de tuyaux.
Il va revenir.
Ah oui, cette machine qui tourne là.
Voilà, qu'on appelle le cogénérateur, donc ils sont deux. Et c'est à l'intérieur de ces caissons, donc qui sont insonorisés, qu'on va brûler ce biogaz, hein, parce que le méthane n'est pas pur. C'est là-dedans qu'on trouve la génératrice qui produit le courant et qui injecte le courant dans le réseau.
Donc il y a toute une machinerie là-dedans qui tourne et qui produit de l'électricité.
Oui, en continu, non-stop, sauf pour faire la vidange du moteur, c'est l'objectif. C'est des moteurs qui font 8000 heures par an. L'avantage de cette énergie renouvelable, contrairement au photovoltaïque ou à l'éolien, c'est qu'elle n'est pas discontinue.
L'éolien, s'il n'y a pas de vent...
S'il n'y a pas de vent, ça ne marche pas.
Mais si j'ai bien compris, il y a beaucoup d'avantages dans cette affaire.
Oui.
Je produis mon électricité, j'ai de la chaleur, je peux faire de l'eau chaude, j'ai du gaz qui est une source d'énergie,
oui.
J'ai un fertilisant.
Oui.
Je ne paye pas pour me débarrasser des déchets que génère mon exploitation.
Oui. Autre avantage qu'on n'avait pas dit, c'est que c'est une énergie qui est produite et ce n'est pas délocalisable. On ne peut pas s'imaginer demain, pour des raisons économiques, de dire on va faire la méthanisation dans un pays où la main-d'œuvre est moins chère. Ça n'a pas de sens. Donc les emplois qu'on crée derrière cette méthanisation sont des emplois sûrs, non délocalisables. Alors évidemment, c'est une filière qui est nouvelle. Donc, comme les riverains sont toujours inquiets, les exploitants agricoles qui veulent se lancer dans cette diversification s'interrogent beaucoup. Il y a par exemple les enjeux financiers qui sont très très grands. Et donc, il faut arriver à les convaincre pour se lancer dans ce genre de projet.
Je vous remercie, on va le jouer de nouveau.
Allez, on y va, s'il vous plaît.
Allez, au revoir.
Au revoir. Merci.
Nous étions sur le site de méthanisation d'Agri-Flandre Énergie à Renescure, une commune française située dans le département du Nord en région Hauts-de-France, à l'invitation de la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moschinski, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, le coqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Toujours cette bonne nouvelle, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio. Vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.
Allez, en voiture.
En voiture. Pour l'accès de votre département
neuf, choisissez
un
autre.
Ce serait con d'arriver ailleurs.
Ah oui.
Alors pour votre bus, pour votre train, ça va aller comment ?
J'ai mon billet.
Sur les horaires ?
Il faut que je regarde.